sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde.
À soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ces merveilleux voyages qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout maman de 4 merveilleux enfants de 15, 12, 5 et 2 ans. 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolo bizarres avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Hello, on se retrouve pour ce 49e épisode « Utiliser les signes avec les bébés ». Ici, je vais vous faire un petit épisode un petit peu fourre-tout avec une partie de mon expérience en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle, puisque depuis déjà plusieurs années, j'accompagne les structures qui souhaitent mettre en place cet outil-là pour pouvoir signer au sein de leur crèche, au sein de leur relais d'assistante maternelle, et puis voilà. Tout d'abord, de quoi est-ce qu'on va parler ici? Je tiens à commencer par expliquer un petit peu quels sont les différents termes qu'on entend le plus souvent. Bien souvent, on entend la communication gestuelle associée à la parole, soit CGAP. Alors ce terme-là, il est correct. Il induit l'idée de l'utilisation d'un geste plutôt que d'un signe en particulier. Donc la communication gestuelle, elle ne va pas forcément inclure seulement les signes, on va pouvoir imaginer qu'il y a autre chose. Le signe, la différence avec le geste, c'est qu'il est vraiment plus précis. Il a un mouvement, une configuration, la main est vraiment dans une position très spécifique. Elle est utilisée avec un mouvement très particulier. Elle est située dans l'espace, un endroit précis, enfin voilà, plus il y a l'expression du visage. Donc c'est vrai que ce communication gestuelle, ça marche, c'est pas toujours exactement fidèle, à, parce que ça ne met pas en avant qu'on utilise les signes issus de la LSF, mais en tout cas, ça reste ok. Ensuite, on a la LSF, moi j'entends trop souvent
des structures qui disent on a mis en place la LSF. Non, la LSF, c'est vraiment une langue à part entière. C'est une langue qui est riche, qui est complète, qui a vraiment ses propres règles. Elle permet de tout exprimer avec beaucoup de nuances, beaucoup d'intensité. Et du coup, ça serait vraiment réducteur que de dire qu'on fait de la LSF alors qu'on va juste venir picorer à la LSF quelques signes qu'on va sortir de leur contexte. C'est comme si on utilisait juste quelques mots en anglais et qu'on disait qu'on parlait anglais. C'est vraiment important, voilà, de penser que même si on utilise le plus fidèlement possible des signes issus de la LSF, on n'est pas en train de faire de la LSF. Il n'y a pas la syntaxe, il y a vraiment un décalage entre ce qu'on propose quand on veut simplement signer avec des bébés entendants pour une période très courte en général, qui va de quelques mois, voire quelques années, à quand on met en place vraiment, quand on apprend, on va dire, une langue aussi riche que la LSF. Ensuite, on entend parler souvent du baby sign. Le baby sign, ça vient d'un courant américain qui, eux, ont choisi de simplifier les signes, parce que l'idée, c'est que pour que les enfants s'en saisissent le plus facilement possible, ben, ils vont être simplifiés. Et donc, c'est vraiment des signes qui sont à la base issus de l'ASL, l'American Sign Language. Ils vont être utiles seulement dans ce contexte-là, mais c'est vrai que ben, sorti de ce contexte, ça ne veut rien dire. Donc, c'est quand même assez dommage. Moi, ça m'embêtait un petit peu, sachant qu'il y a plein de petites astuces pour que justement, on fasse en sorte de proposer aux enfants des choses qui soient accessibles et qui enrichissent notre communication, parce que c'est vraiment l'idée. Et donc, il y a le signe associé à la parole, ou SAP, qui, pour le coup, a été breveté, il me semble, par Isabelle Cotenceau, qui est une formatrice qui a énormément œuvré dans le monde du bébé signe, si l'on peut dire. La spécificité de ce sigle, c'est qu'il va vraiment mettre en avant que ce sont des signes issus de la LSF qui sont utilisés dans le but de communiquer avec les bébés. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair quand vous entendez un petit peu différentes choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est essentiel de respecter la langue LSF et donc la communauté sourde ? Ben, tout d'abord parce qu'on en entend assez peu parler, notamment quand on est scolaire. Et on aurait souvent tendance à croire que finalement l'inclusion est efficace quand on est dans un monde de privilèges. On ne se rend pas forcément compte que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui et que les lois qui sont venues en France, on va dire un petit peu pour protéger aussi bien la LSF que la communauté sourde, elles sont très récentes et elles ne sont pas encore forcément super bien appliquées concrètement. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. Si toutefois vous êtes une personne qui est concernée et que vous voulez venir témoigner, c'est avec grand plaisir que je vous accueille au micro de ce podcast pour venir un petit peu de manière plus légitime, on va dire, conter l'histoire de la LSF. Ça pourrait être très intéressant et je vous remercie d'avance. Toujours est-il que pour aller dans les grandes lignes, il y a vraiment un alphabet très précis en LSF qui ne va pas être utilisé à part pour épeler certains mots, pour les prénoms par exemple, ou pour des choses assez formelles. Mais il peut être intéressant de l'avoir en tête, au moins de le visualiser, pour se rendre compte qu'il y a en fait beaucoup de gestes différents. Et toutes ces postures de main, en fait, elles vont être après très précise, sachant que l'alphabet, ça reste 26 lettres seulement, et il y a beaucoup plus de configurations différentes. Mais l'idée, là, c'est pas de rentrer plus dans les détails maintenant. Toujours est-il que quand je vous évoquais la richesse de la LSF, il y a plusieurs critères pour qu'un signe soit correct. Il va y avoir la partie vraiment manuelle, quelle est la configuration de la main, quel est son emplacement, comment elle est orientée, quel est le mouvement qui est fait, et tous les paramètres autres comme l'expression du visage, le regard, la posture corporelle, le mouvement labial, il peut y avoir également la vitesse à laquelle c'est fait qui va donner de la force, de l'intensité. Et toutes ces choses-là, eh ben, on n'est pas vraiment averti pour les voir, et quand on n'est pas averti pour les voir, eh ben, on peut passer à côté de ces informations-là. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas rentrer dans l'amalgame, comme quoi on fait de la LSF quand on signe des choses de manière sporadique avec les bébés. Et là, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je sais que c'est quelque chose qui est assez frustrant quand je fais des ateliers avec les parents ou avec les professionnels et qui me disent « Et ce signe-ci, comment on fait ce signe-là » Et je suis tellement désolée de dire « Je ne le connais pas, je ne sais pas et je ne vais pas inventer. » Alors bien sûr, il y a des outils qui sont très bien faits, notamment je pense à l'application Elix qui est une ressource qui est gratuite, auquel vous pouvez contribuer, il me semble, mais qui à la base est vraiment téléchargeable par tout le monde. C'est un dictionnaire vidéo, c'est-à-dire que vous tapez un mot et vous voyez directement le signe qui vous intéresse. Donc ça peut être intéressant, mais moi je milite vraiment pour que le bébé signe, ça ne soit pas engranger le plus de signes possible et avoir le plus de vocabulaire possible, sachant que ce vocabulaire seul, il ne peut pas être intégré dans une communication ou très peu avec des personnes sourdes parce qu'on a vraiment juste un tout petit échantillon du possible. Et que moi, dans le contexte du bébé signe, pourquoi c'est intéressant de signer avec un bébé ? Ben, tout simplement parce que la communication, c'est la base de la relation. Et qu'au tout départ, quand le bébé arrive, ben, on n'a juste pas de mode d'emploi. Alors, on a besoin de décrypter, d'imaginer, d'essayer de comprendre, d'interpréter la façon dont le bébé va se comporter, va nous mettre sur une piste ou sur une autre. Alors, quand on est des parents, c'est pas toujours facile, on nous fait croire qu'on arrive à savoir exactement de quoi notre enfant a besoin, mais je pense que la majorité des parents peuvent avouer ici que non, c'est pas toujours le cas. Des fois on imagine, puis des fois on se trompe, et ce qu'on avait cru à un moment, ben, c'était pas forcément vrai, ou ça peut arriver bien sûr, comme dans le cas de l'hygiène naturelle infantile. Oui, il y a des moments d'intuition et de connexion qui sont assez incroyables, mais c'est pas tout le temps, et pas dans tous les cas. Il y a des petites choses qui peuvent nous aider, les mimiques que font les bébés, leur regard, leur expression, s'il y a des pleurs, tout ça c'est les manières, les stratégies qu'ont les enfants pour pouvoir mettre en place une communication. Des fois ça fonctionne bien, des fois c'est un peu plus délicat. Et en grandissant, les bébés, les bambins, les bambines, elles vont avoir des besoins de plus en plus précis, de plus en plus spécifiques. Et donc l'interprétation va devenir de plus en plus compliquée. Et dans l'idée de favoriser le lien, on va pouvoir s'ouvrir à un outil supplémentaire pour entrer en communication et enrichir le dialogue avec des effets positifs, bien sûr, avec des effets positifs sur le lien. Donc au lieu de continuer à juste verbaliser les choses, sachant qu'il n'a pas la capacité, l'enfant, avant, on va dire, entre un an, deux ans, des fois un peu plus tard même, de pouvoir répéter et nous faire comprendre expressément par les mots ce qu'il a envie de nous partager, et bien on va faire en sorte d'utiliser de manière très précise certains signes. Ça va nous aider à avoir une compréhension qui soit facilitée. Ça va nous permettre de vraiment disposer d'un outil qui soit évolutif pour s'adapter et avoir des partages qui sont plus précis et une communication qui est enrichie tout simplement. Ça va permettre également d'avoir un sentiment de compétence aussi bien pour le parent ou alors le professionnel, la professionnelle qui prend soin des enfants, parce que ça va permettre de réussir à établir un échange qui soit, on va dire, garant d'une confiance mutuelle et individuelle. Cette sensation, elle va encourager à continuer en ce sens, et en gros, c'est un cercle vertueux qui va s'observer à ce moment-là. On commence à essayer de signer, puis mince, on ne s'y attendait pas à ce que ça soit si rapide. On va commencer à essayer de signer, on va se rendre compte que l'enfant s'en saisit, alors on va chercher à en proposer d'autres petit à petit, et on va se rendre compte au fil du temps qu'il y a beaucoup moins de frustration, qu'il y a un climat qui est plus apaisé, que l'enfant naturellement va être à la recherche de nouveaux signes pour nous signifier des choses autres et que l'échange va grandir au fur et à mesure que l'enfant grandit. Moi, je vois beaucoup d'avantages à l'utilisation des bébés signes. aussi bien pour l'adulte, parce que ça va permettre à l'adulte de veiller à sa posture naturellement. On a tendance à parler trop vite, trop loin. Des fois, on est happé par le quotidien, on va regarder ailleurs. On ne va pas être pleinement présent. Quand on fait en sorte de mettre en place des signes associés à la parole, on va à ce moment-là chercher à adopter une posture qui soit favorisante. Ça veut dire qu'on va se mettre plutôt à la hauteur de l'enfant. On va faire en sorte qu'on ait un eye contact, qu'on ait le contact visuel. On va réduire naturellement notre allure. Ça va permettre d'utiliser le signe en même temps que le mot. On va peut-être même utiliser moins de mots. Et ça va permettre de sortir un petit peu de notre zone de confort, parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait un petit peu en pilotage automatique. Et là, au tout début, en tout cas, quand on met en place cet outil-là, eh ben, ça nous permet de stimuler notre attention, parce que on sort un petit peu de cette routine où on fait tout un petit peu machinalement pour ajouter quelque chose de nouveau, et c'est très enrichissant aussi pour l'enfant. Ça va nous permettre de redécouvrir un petit peu notre environnement et de repenser différemment aussi bien la façon dont on se comporte que la façon dont on interagit. Et du côté de l'enfant, pour moi, c'est vraiment quelque chose de tout bénef. Ça va lui permettre d'avoir plus confiance et d'être plus apaisé. Ils vont se sentir compris, écoutés. Ça va leur procurer un sentiment de sécurité encore plus important. Ça va leur permettre de renforcer la confiance en eux et en les adultes qui en prennent soin. L'utilisation des signes, c'est quelque chose de très riche pour eux, qui vont leur permettre un développement sensorimoteur accru, avec vraiment, c'est assez amusant à observer, parce qu'au départ, il y a les premiers gestes qui sont des imitations timides, et comme pour les premiers mots, c'est pas parfait, ça ressemble, on peut même douter, se dire, oh tiens, j'ai l'impression qu'il a fait un signe, mais je suis pas sûre, peut-être juste il se grattait, on sait pas trop. Et petit à petit, eh ben, les enfants vont affiner leurs gestes. Ils vont également être demandeurs pour pouvoir proposer de nouveaux signes et enrichir encore une fois les échanges qu'ils ont avec les personnes qui les entourent. Bien sûr, il y a des limites. Déjà, il n'y a aucune assurance que l'enfant s'en saisisse. Il y a des enfants qui vont signer tout de suite beaucoup, d'autres très peu. Il y a des enfants qui vont signer seulement un signe qui va venir de manière récurrente, ou il y en a pour qui ça va pas être visiblement quelque chose qui les attire. Ça reste ceci dit très rare. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'enfants qui ne s'intéressaient pas aux signes, ou sinon c'était des enfants qui étaient déjà entrés dans la période du langage. Là, on parle bien de la mise en place d'un outil pour les enfants qui sont préverbaux. Ça va pouvoir les accompagner et il va y avoir un temps en parallèle où l'enfant signe en même temps qu'il parle, mais la plupart du temps, quand il commence à avoir un vocabulaire qui se diversifie, ils vont abandonner les signes parce qu'ils vont avoir plus de richesse à proposer à l'oral, tout simplement. Donc l'autre limite, c'est que non, ce n'est pas une baguette magique. Je suis désolée de vous le dire, les frustrations, elles ne vont pas disparaître. L'accueil des émotions, oui, ça reste essentiel, c'est important. Et malheureusement, s'il suffisait de signer pour qu'il y ait des manifestations qui ne soient parfois pas inconfortables, ça se saurait. Désolée. Et une chose qui est importante aussi, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression ni de rechercher une efficacité ou une rentabilité à tout prix. C'est un petit peu le travers, malheureusement. C'est vraiment un plus à apprécier comme il vient. Et c'est pas possible de se mettre une pression. J'ai déjà vu des cas de personnes très bien intentionnées, mais qui voulaient à tout prix que l'enfant signe. Et par exemple, il disait à table, si tant que l'enfant disait pas s'il te plaît en signe, tant pis, il n'avait pas le droit à son dessert. Donc ça non, c'est pas possible. On reste vraiment ancré sur des valeurs de respect, et respect du rythme de l'enfant, ça passe par là aussi. J'aime beaucoup la phrase qui dit on propose et les enfants disposent. Ça voilà, c'est peut-être ils le feront. Peut-être ils le feront vite, peut-être ils le feront moins, peut-être ils le feront souvent, et peut-être ça sera juste de temps en temps, et c'est ok en fait. C'est vraiment une ordre, c'est vraiment avoir comme une arc en plus, non, c'est vraiment avoir comme une corde de plus à notre arc, et ça sert ou pas. Alors ici, j'ai envie de vous livrer quelques petites astuces par rapport à la mise en place de cet outil. Tout d'abord, il faut vraiment prendre en compte que c'est un temps de connexion et d'échange. Comme tout partage, il faut vraiment qu'il y ait une attention particulière. On va veiller à ce que le climat soit le plus propice possible. On va essayer au tout départ de proposer des signes dans un moment qui soit opportun, où on puisse avoir des enfants qui sont sereins, qui sont détendus. J'en parle souvent quand je fais également des ateliers de portage, où je dis l'écharpe de portage, c'est vraiment un outil magique. Quand votre enfant, il est pas bien, que vous savez pas trop ce qu'il a, qu'il a besoin de réconfort, ça peut être un petit peu quelque chose passe-partout. On met dans l'écharpe, il s'apaise, vous êtes bien, ça se passe bien. Ça, c'est vrai quand il en a l'habitude. Quand l'enfant n'est pas encore habitué, que c'est une nouveauté, ça lui demande beaucoup d'adaptation. Alors à ce moment-là, on ne peut pas espérer décemment lui proposer quelque chose de nouveau, qui soit une nouvelle stimulation et qui puisse à tous les coups marcher pour faire du bien. Donc pour les signes, c'est pareil. On va faire en sorte de proposer des signes de manière au départ très ciblée, très choisie. On va vraiment utiliser certains signes. Moi, j'aime bien me dire aux parents au départ, si vous arrivez à en choisir entre 5 et 10, mais que vous les faites systématiquement, à chaque fois que vous dites le mot, vous faites le signe, et bien ça sera beaucoup plus porteur que si vous essayez d'en retenir 20, 30, parfois même plus dès le départ, et que vite vous vous essoufflez, vous allez faire une semaine, vous allez y penser, ça va vous demander beaucoup d'énergie, puis le quotidien va reprendre le dessus, et finalement, ben après vous allez oublier une fois, deux fois, et puis vous n'allez plus vous rappeler, puis en fait vous allez en faire un autre, vous allez vous tromper, il y a assez peu d'intérêt comme ça, vaut mieux en faire moins, et faire en sorte que quand vous les faites, vous les faites de manière récurrente, et dans un moment où votre enfant il est le plus disposé possible à recevoir ces signes, donc quand tous les besoins physiologiques sont remplis, qu'il n'y a pas eu de crise, que l'enfant n'est pas trop fatigué, et donc voilà, dans une ambiance détendue, ça sera beaucoup plus simple de proposer ça, et de semer cette petite graine. Donc pour les signes que vous allez pouvoir utiliser, c'est vraiment à vous de voir au départ lesquels vont être les plus utiles dans votre quotidien à vous. C'est vrai qu'en général, ceux des besoins physiologiques sont ceux qui reviennent le plus souvent parce que on les... c'est des signes qu'on peut facilement placer plein de fois dans la journée, donc on va avoir par exemple viens téter pour un tout petit, on peut l'avoir le signe téter, on peut avoir le signe encore, c'est des signes assez génériques qui passent partout, ou fini qui est un signe très chouette pour pouvoir respecter le consentement de l'enfant quand il commence à manger par exemple, est-ce que tu veux encore ou est-ce que c'est fini? Quand il est en train de jouer, est-ce que là tu as fini? Est-ce que voilà, il y a plein de contextes comme ça qui peuvent être assez sympas. On peut avoir aussi pourquoi pas le fameux doudou, ou alors est-ce que tu veux boire, ou tout simplement si on fait l'hygiène naturelle, c'est très pratique d'avoir le signe juste pipi ou caca avant de proposer par exemple. Et petit à petit, l'enfant va associer le signe et le mot quand on le propose au bon moment, et va pouvoir essayer lui-même de le reproduire. Comme je vous le disais, c'est pas toujours évident de voir au départ est-ce que mon enfant il a vraiment signé. Moi je me rappelle, j'avais vraiment un gros doute parce que l'un des signes que j'ai fait assez vite, c'était le signe caca pour ma première, parce que nous pratiquions l'hygiène naturelle infantile, et caca donc c'est l'index qui va être pointé dans le cou. Et c'est vrai qu'au tout début, je ne savais pas trop si elle se grattait. J'avais vraiment cette impression-là qu'elle se grattait. Et je m'étais rendu compte que non, en effet, c'était bien le signe caca, puisqu'il y avait le contrôle visuel qui arrivait peu après. Après, vous avez aussi la possibilité de proposer des petites lectures, les petites lectures signées qui peuvent être très sympas. Je n'ai pas évoqué d'âge parce que je pense qu'on peut vraiment signer à partir de la naissance. Mais parfois, pour certains parents... c'est déjà un grand chamboulement avec tellement de choses à gérer dans le quotidien, encore plus pour un premier enfant. C'est tellement de nouveautés, tellement de vigilance à avoir, que c'est difficile d'intégrer en plus les signes, donc ça peut attendre les premiers mois sans aucun problème. On peut commencer à signer aux alentours de 6 mois, 9 mois. Il n'est jamais vraiment trop tard pour un enfant qui parlerait déjà très bien à 18 mois, il y a peut-être peu d'intérêt, mais pour un enfant qui est seulement à quelques mots, on peut tout à fait l'inclure après 18 mois encore. Et dans le contexte de crèche, c'est très intéressant parce que c'est une grande machine, ça prend plus de temps à se lancer que dans le quotidien parce qu'il n'y a pas un temps de présence qui est forcément le même qu'avec des parents qui sont tout le temps à la maison avec leurs enfants. Ou ça peut être un petit peu différent parce qu'il y a la façon dont vont fonctionner les enfants chez eux, dans leur famille et puis à la crèche. Par contre, à partir du moment où les enfants se mettent assignés, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment ce phénomène d'émulation où le signe va venir faire partie un petit peu du quotidien de la crèche et les nouveaux enfants qui vont arriver vont voir les plus anciens qui signent et très vite en fait ça va devenir tout à fait ancré dans le quotidien de la crèche. Dans les petites choses qui sont sympas aussi à mettre en place, c'est vous pouvez éventuellement proposer des petits affichages, ne serait-ce que pour vous en tant qu'adulte, pour vous remémorer certains signes ou pour penser à signer. Ça peut être au-dessus du coin allongé, tout simplement, ça peut être à côté de où vous prenez vos repas, ou voilà, à côté de l'endroit calme. Ça peut être vraiment facilitant d'avoir un petit visuel comme ça pour vous rappeler quel est le signe et pour pouvoir le proposer à bon escient. Vous avez aussi un outil qui fonctionne très très bien, ce sont tout ce qui va être petites chansons et petites comptines signées. Naturellement, on signe déjà aux enfants avec des signes qui ne sont pas issus de la LSF, on a tendance à inventer des petits signes, les enfants les reproduisent naturellement, ils adorent ça, et donc là, je vous invite à aller trouver, maintenant vous avez énormément de ressources sur internet, mais également dans les librairies, avec des petites vidéos qui vont vous permettre, vous, d'apprendre le signe. L'idée, c'est pas de regarder la vidéo avec l'enfant, c'est de vous l'apprendre pour pouvoir faire vraiment un temps de qualité et de partage avec lui. Il y a souvent certaines inquiétudes qui planent autour de l'utilisation du signe associé à la parole, notamment une acquisition plus tardive du langage. Alors, pour le coup, si le doute était permis, fut un temps, ce n'est plus le cas. Il y a vraiment des études qui montre actuellement que ça ne retarde pas le langage. On aurait plutôt tendance à penser le contraire. Vous avez sans doute entendu parler un petit peu du fonctionnement du cerveau avec différentes zones du cerveau qui s'activent selon ce qu'on utilise dans notre corps, selon comment on pense. Et on se rend compte que utiliser la parole plus le signe, ça va venir activer plus de zones dans notre cerveau et en fait les zones elles aiment bien s'activer les unes après les autres, ça permet d'avoir encore plus de circuits neuronaux entre eux, donc on peut penser qu'au contraire c'est un effet très positif. La seule chose comme je le disais c'est que oui en effet il y a un moment où l'enfant parle et signe en parallèle et alors il va finir par laisser tomber le signe quand il a un dialogue qui est vraiment plus riche. Voilà. Je vais arriver au bout, il y aura encore beaucoup de choses à dire mais ça fait déjà un certain temps et je ne veux pas faire des épisodes trop longs. J'espère que ça vous aura apporté quelques petites infos, quelques petites astuces qui pourront vous aider au quotidien si vous êtes dans cette démarche d'utiliser le signe associé à la parole ou alors pourquoi pas que ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne pour les familles qui le pratiquent. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. N'hésitez pas à partager autour de vous, bien sûr, ça est vraiment soutenant pour ce petit podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine.